Nous nous retrouvons en direct sur la place Saint-Sauveur. Yo, tout va bien?
T'as oui,
mangé?
Tout va bien.
T'as enfin mangé?
Ah, on a enfin mangé. Il est 16h, ça y est, on digère. Merci d'être venu pour notre digestion, cher public adoré. Ça va, place Saint-Sauveur?
Ah bah dis donc, ils ont l'air en forme. On est là pour le salon du livre.
Hein. Le salon de livre.
De oui. Livre. Et là, t'es venu avec du monde, j'ai l'impression, Yo.
Oui, avec plein de amis qui viennent du lycée Victor Hugo. Et qui ont écrit, qui vont également dire des textes. Alors, on présentera un peu plus en détail.
Ils sortent un livre, le rapport avec la foire du livre.
Quel est le rapport avec la foire du livre? Eh bien, voyez-vous, mon cher Ben, il y a plusieurs cartons de livres, des centaines de kilos de livres intitulés « De la réalité à la fiction, écrire avec Mathieu Larnaudy ». Un vrai auteur hein, qui vient pas de Caen, hein, qui vient de la capitale, je crois.
Oh là là, bah, s'il vient de Paris, c'est
voilà,
garanti.
Qui est ici, dans la grande tente blanche, je pense, en train de faire des cases dédicaces. Et donc là, nous avons des jeunes auteurs, des auteurs en herbe, qui vont nous interpréter une partie de leurs écrits.
D'accord. Alors, ben on va écouter, on parlera avec eux après, c'est ça?
Voilà, on détaillera un peu plus cette aventure littéraire de cette bande de lycéens et lycéennes. En attendant, on va écouter Nel pour commencer.
Éclairée par la seule lumière de la lune, une petite barque glisse sur une calme rivière. Abritée par les arbres, elle ne souffre pas des regards importuns. Filant élégamment, portée par les flots, l'embarcation vogue sans répit. Horizon pour objectif. Pour rêve, le baiser de la mer. Pour peur, le brûlant de la plage. Pour quotidien, le calme du ciel. Courant énergique et douce mer dont les riches denrées nourrissent la vie. Petite barque de bois guettant l'horizon. Tranche sans faiblir. Les gouttelettes du plaisir. Fixant sans désir la tempête à venir. Frappé, bousculé, projeté par Hélios, brisé, terrifié, déchiré jusqu'au sang, barque de mon âme, ras de marée de mes rêves, désormais, petite fille au cœur brisé, ne cesse de me porter. Avec elle jusqu'au bout, élue d'une barque en galère, désespérée, silencieux. Je m'en suis allée, j'ai plongé de la terre, je suis partie en mer, en attendant la fin, sombrant dans le néant, coulant dans le calme, n'aspirant qu'au repos. Ainsi, je disparais, fantôme des abysses. Ainsi, je mourrai, couché sur le sable, vidé d'oxygène, vidé de rancœur. Ainsi, je m'en vais dans le calme du soir.
Un corps dépourvu d'âme. Un jour précis qui reste gravé à vie. Une nuit d'horreur qui semble durer des années. Un éternel supplice intérieur. Aucune guérison connue, une voix qui disparaît. Des années de mensonges, un faux sourire pour assurer. Des œufs brillants qui ne peuvent craquer. Une jeunesse détruite. Un regard adulte qui surgit bien trop tôt. Des nuits sans sommeil, incomprises par son entourage. Présence physique, absence mentale. Je ne pouvais deviner ce jour-là que ma vie allait basculer. Une nouvelle identité? Des rencontres se font? Des soirées trop courtes, voulant durer toute une vie? Un espoir revient. Un nouveau goût de la vie? Une vie qui renaît. Des après-midi ensoleillés, peu importe le temps? Un sourire sincère? Des étoiles de joie dans les yeux? Un nouvel avenir tracé? Une adolescence retrouvée? Une insomnie oubliée? Un retour à la vie? Mes amis m'ont sauvé la vie.
J'y étais presque. Il ne me restait que deux rochers à monter une dernière pression sur les jambes pour arriver au sommet. Mon sommet. Jacques n'était plus très loin. Je devais me dépêcher. Enfin, la voilà. Cette vue, cette forêt, ces bruits qui me détendent et me font sourire. Jacques se met à crier et je l'accompagne. Nous sommes si heureux, si libres. Papa fume une cigarette sur la terrasse, mais je suis trop occupé à me battre pour l'observer. Jacques est vraiment très fort, mais je ne perdrai pas. Je suis à terre, fou, en colère. Je me relève péniblement et saisis une lourde brique derrière moi. La folie m'envahit. Je ne me contrôle plus. Et soudain, je frappe. Un son sourd et puissant m'envahit et je perds pied. Comme si c'était moi, la victime de cette brique. Mes parents crient, mais je ne les entends pas. Maman pleure, mais je ne l'entends pas. Papa retire sa ceinture, mais je ne le vois pas. Je finis par marcher, instinctivement, comme si une force extérieure m'entraînait vers lui, le tableau. Lui auquel je n'avais jamais porté une attention particulière. Lui qui m'appelle. Alors je lui obéis, et pendant que mon père exécute sa sentence, je lis et j'observe ce tableau. Tu ne tueras point. Les paroles qui y sont gravées, accompagnées d'illustrations, les paroles de celui à qui je ne désobéirai plus. Je ne serai plus jamais le même. Desmond, tu ne tueras point. Une dizaine d'années plus tard, je me porte volontaire pour la bataille d'Okinawa. Mais je refuse de porter une arme et de me battre, à mes risques et périls, choisissant la religion comme seule protection. On m'affecte donc à un poste d'infirmier. Cette nuit, je suis le seul à être resté sur le champ de bataille pour ramener les derniers blessés. Et à chaque fois que j'en sauve un, je prie pour avoir la force d'en ramener un de plus. La fatigue, la faim, mes mains en sang. Mon corps entier me supplie d'arrêter, mais mon âme, elle, supplie Dieu de me donner la force de continuer. Oui, Desmond, tu n'as pas tué, mais tu as sauvé.
Ma spécialité, le sprint, notamment le 400 mètres. Amputé dans ma tendre enfance à l'âge de 11 mois, absence de péroné à la naissance. Malgré ce handicap, les progrès de la médecine m'ont permis de marcher et de m'amuser avec les autres élèves de l'école, grâce à des prothèses. J'ai toujours été un grand fan de sport. J'étais très active dans cette matière. Malheureusement, suite à un entraînement de rugby, je me suis brisé les genoux. J'ai rencontré un médecin compétent qui me fit découvrir la marche à pied et la course pour ma rééducation. Malgré des séances laborieuses, je pris goût à cette discipline et en ai découvert mes talents, malgré mon handicap. Je fus le premier athlète médaillé au championnat du monde de 2011 parmi les valides. Le 4 juillet 2012, je devins le premier athlète amputé à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Je suis très connue pour mes performances fulgurantes et ma persévérance. C'est là qu'un nouvel événement est venu bouleverser ma vie. Le 14 février 2013. Accusée d'homicide volontaire, j'ai tiré 4 coups à travers la porte de la salle de bain. J'ai ouvert la porte et c'est là que je l'ai découverte, allongée, la tête baignant dans son sang. Je venais de tuer ma femme. Le 21 octobre 2014, je suis condamnée à 6 ans de prison ferme. Cet événement a ravagé ma vie. Je ne pourrais plus vivre de ma passion et j'ai perdu la femme qui illuminait mes journées. Moi, Oscar Pistorius, grand athlète du 21e siècle, exemple pour de nombreuses personnes, je suis devenu un meurtrier.
Je pars. Je pars loin de cette mascarade. Ma fille, ma compagne, et je m'en vais. Mais elle, je ne peux l'éviter. Elle ne me quitte pas. Elle est toujours là. Elle me poursuit et me hante. Je ne peux m'en défaire. Nous ne faisons qu'un désormais. Je ne l'accepte pas. Elle va m'enlaidir et me pourrir la vie. Je ne fuis pas la réalité. Je ne peux plus. Elle est en moi. Le vent frais sur mon visage, cette douce odeur iodée et la mer qui me berce me font me sentir bien, enfin. La maladie semble loin. Mes poumons se gonflent de cet air pur. Qui sait ? Peut-être me guérira-t-il miraculeusement. Ici, il ne s'agit que de la mer, mes amours et moi. Je suis un homme comme un autre. Affrontons la belle vie la tête haute. Ma célébrité n'a plus aucune importance. Je vis, encore. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà? Oubliez le temps.
J'allais trop vite. Des liasses pour mon futur enfant, des liasses pour ma mère et pour mes paires de chaussures. Je crois que j'ai cessé d'être un bon élève pour ça. Faut dire que la vente de crack à Brooklyn, ça rapporte. Tout simplement, un chèque dans la rue, n'importe quand, avec n'importe qui. Je suis un dealer, pas une assistante sociale. Ce qui compte, c'est les liasses de dollars. Mais j'allais trop vite. Et c'est quand tout va bien qu'il faut s'attendre au pire. Je suis tombée, 9 mois. Tout ce temps passé derrière les barreaux, avec mon seul esprit, mes feuilles et mon stylo. Certains diront que j'écrivais parce que c'était ça mon truc. Moi, je dis qu'il faut tromper l'ennui dans cette cage. Je réfléchis beaucoup, je pense à ma mère, à tous ces mensonges que j'ai pu lui dire. J'apprends que mon enfant est une fille, quel père végète pour elle. J'ai tout perdu d'un seul coup, mais il me reste l'ennui. Le suicide me hante, ce fantôme dans ma cellule. Au fond du gouffre, je désespère. Mais lorsque l'on m'a libérée, je continuais par nécessité. Ce qui m'a fait plonger m'a aussi fait gagner beaucoup d'argent. J'étais libre, je pouvais continuer. J'avais l'habitude de faire du rap dans la rue. L'art du langage, défier, puis anéantir son adversaire avec de simples phrases. J'étais le meilleur de tout Brooklyn. Biggie Smalls, c'était mon nom. Puis, on m'a incité à enregistrer mes textes, et ces enregistrements se sont retrouvés entre les mains de Puffy, Sean Combs de son vrai nom, un producteur hors norme, mon acolyte. À la première écoute de mon enregistrement, Puffy disait qu'ensemble, on irait jusqu'au sommet. Mais il me pose un dilemme. C'était soit la rue, soit le studio. Les deux n'allaient pas ensemble et il avait raison. Alors j'ai travaillé mes textes, travaillé comme jamais auparavant. Le Biggie Smalls s'est alors transformé en The Notorious Big.
À ma génitrice, ô voile noire, la folie à mots a placé dans mon cœur la panique et a empli mon âme de confiance envers votre bonté. Vous avez, naguère, tenté de stopper les bagatelles qui ravagent nos terres depuis des siècles. La réflexion s'est faite après vos murmures résonnés à mon oreille. Les putrides gouverneurs luthériens répandent encore leurs vices à travers l'Europe. Comme des charognards, ils hantent nos villes. Le monde appartient aux bêtes. Et vos tentatives de raisonnement sont depuis bien longtemps avortées. Ô sombre mère, je m'agenouille devant votre trône déchu. Le conseil n'a qu'un ordre. La voie est juste. La voie juste ne peut se voir entravée et concurrencée par ses chagrins inconscients. Je sors mon corps et souffle avec force dans son embouchure et répands l'ordre de chasse dans les plaines de France. Le vert des jardins des Tuileries deviendra rouge en cette sainte nuit. Votre bon fils, 23 août 1572, Charles.
D'abord, juste l'ombre d'une cigarette à l'entrée de la forteresse des jeunes. Puis, toutes ces odeurs de l'adolescence qui se mélangent à la beauté du monde. Qu'ils le veulent ou non, c'est comme leur deuxième maison. Et ils doivent y loger 12 saisons. L'infirmier, lorsque j'eus 14 ans, m'a dit que les relations dans les palais de 15-18 ans étaient plus matures. Plus que dans celles des 11-14 ans naturellement. Que des choses d'une plus grande ampleur pouvaient s'y produire. J'y suis parvenue, dans ce royaume d'histoire toutes palpitantes les unes que les autres. Mon premier désir était de réussir. Du moins de tenter de réussir et de sortir victorieux après 3 belles années. Mon deuxième désir est de loin le plus grand. Était de trouver quelqu'un. Quelqu'un à aimer, quelqu'un avec qui partager ma vie. Peut-être le temps d'une période, peut-être le temps de toute une vie. Je sais pourtant que rien ne sert à rien. Les humains ne servent à rien. Les voitures ne servent à rien. Si l'on croit le contraire, c'est comme regarder la lune d'eau dans un miroir de fleurs. Mais pourtant on vit. Pourtant on est là. C'est ça la vie. C'est d'être là sans être là, c'est de chercher sans chercher. C'est de vivre sans vraiment vivre. La vie est un miroir qui évolue. C'est nous. On se voit grandir, changer, vieillir, pleurer, rigoler, puis le miroir se brise. C'est la fin. Mais c'est la fin sans en être vraiment une. C'est ce que l'on appelle la technologie, qui dans le monde d'aujourd'hui, prend le devant. Toutes ces boîtes électroniques, toutes ces prisons, où chaque mot, photo, phrase ou photo est sauvegardé.